Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio et c'est l'heure de Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil. Bonjour Stéphane.
Bonjour Julie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Bulle d'Histoire.
Pareillement, et alors en plus, bon, juste, petite parenthèse, mais là on va dans un autre univers très différent de l'univers normalement abordé dans cette émission.
Absolument, parce que je me suis dit que la guerre et les choses horribles, il fallait de temps en temps faire une petite pause. Et comme on a déjà invité des éditeurs, des coloristes, enfin pas mal de gens du métier de la bande dessinée, il y a un métier qu'on n'avait pas encore abordé, c'est les revues de bande dessinée. Et j'ai invité une légende vivante de la bande dessinée, c'est Pascal Pierret, dit le professeur Pierret, ce que j'adore d'ailleurs, qui est le rédacteur en chef d'une ribambelle de magazines qu'on connaît tous. La tête de gondole, c'est Picsou Magazine, mais il va nous raconter tout ça. Pascal, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour Julie, et bonjour aux auditeurs.
On va commencer par la question rituelle de Bulle d'Histoire, mais qui êtes-vous donc ?
Alors moi je suis le professeur Pierret, comme vous l'avez dit, donc je suis le spécialiste du canard, mais du canard en bande dessinée quoi. Donc c'est un métier que j'exerce, je dirais, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, quand le numéro 1 de Picsou Magazine est arrivé. Et j'étais lecteur du journal de Mickey, je lisais les aventures de Picsou dans Mickey que j'adorais. Et là, il y a hop, une petite publicité qui arrive qui annonce la sortie de Picsou Magazine le 21 février. Et je suis né le 22 février. Donc je m'attendais à ce que mes parents, parce qu'à cet âge-là, on croit que les parents connaissent tout ce qu'il y a dans votre tête, qu'ils lisent comme un livre ouvert en fait, dans votre cerveau et tout ça, ce qui n'était pas le cas, j'ai pas eu ça comme cadeau. Donc j'ai acheté ça avec mon argent de poche et c'était la première chose que je m'appropriais et c'est devenu vraiment mon journal. Et donc quand ma famille m'interrogeait pour me demander ce que je voulais faire plus tard, je disais rédacteur en chef de Picsou Magazine. Donc voilà, aujourd'hui là j'ai 57 ans, donc ça fait 47 ans que j'exerce cette passion quoi.
Alors je me pose une question, c'est comment devient-on rédacteur en chef de Picsou Magazine, sachant que vous avez été aussi rédacteur en chef du journal de Mickey ?
Ah oui, alors ça c'était un accident en fait. Voilà.
Donc comment on devient, comment on fait ce métier ?
Donc moi en fait c'est une passion pour les canards mais aussi pour la bande dessinée au sens large. Donc quand j'étais jeune à l'époque où Mitterrand a été élu, donc il y avait tout un effort sur la culture qui était assez formidable, avec Jack Lang qui arrivait, etc. Premier forum de l'autoproduction à Montreuil. Et moi j'avais mon petit fanzine avec mes copains. Et donc on présente ça à côté des garçons bouchers, de Pigalle et tous ces gens-là. Et puis il y a quelqu'un de Métal Hurlant qui vient, il cherchait des rédacteurs, ils me disent « Ah bah c'est qui écrit tout ça ?» et tout ça. Bah, je dis « C'est moi » et hop, je suis engagé à Métal Hurlant. Et Métal Hurlant s'arrête, etc. Et en fait, juste avant qu'on s'arrête réellement, on déménage et on arrive rue de Berry, au quatrième étage d'un immeuble, où au cinquième, il y avait Picsou Magazine. Donc forcément, j'ai été tapé à la porte. Et la rédactrice en chef à l'époque, qui était assez ouverte aux propositions, en fait, etc., m'a fait commencer à travailler. Donc je me souviens que ma première pige était de 30 francs. Voilà. Et j'ai mis un pied dedans, puis petit à petit, je suis devenu rédacteur en chef.
C'était une pige de dessin, de scénariste,
De rédacteur, ouais. Ouais. Et à la première pige, alors si je me souviens bien, en fait, j'ai écrit une espèce de petit papier sur Dracula, sur les vampires, etc. Mais en fait, donc, c'était tout un exercice parce qu'il fallait être assez atonal en fait, pour les enfants à l'époque. Et d'ailleurs, quand je suis rentré à Picsou, en fait, moi, j'étais plein d'énergie, plein de choses à vouloir dire, en fait, un peu au même niveau que les enfants et tout ça. Et tout de suite, on m'a mis un petit peu le ton en dessous. À l'époque, on était très, très encadré, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai constaté en arrivant dans la presse pour enfants, mais je pense que les éditions pour enfants, c'est un peu la même chose, etc. Tout ce qui concerne les enfants, d'ailleurs, en fait, c'est souvent des métiers de femmes, en fait. Et donc, du coup, il y avait énormément de femmes et il y avait très peu de garçons. Mais par exemple, Picsou nécessitait quelqu'un qui soit un peu masculin, en fait. Voilà, c'était un peu... je suis désolé d'être aussi sexiste que ça, mais c'était un peu le ton de l'époque. Et donc, on avait des conseillères en pédagogie, des choses comme ça, et qui nous disaient des choses incroyables. Par exemple, moi, je me souviens que c'était un choc à l'époque, quand j'ai entendu ça. Je venais d'avoir des enfants, et elle nous racontait qu'en fait, les enfants ne comprenaient pas le deuxième degré. Et moi, je jouais avec ma fille qui avait 2 ans ou 3 ans à l'époque, je jouais au loup. Et elle comprenait tout à fait que j'étais pas un loup, que c'était du second degré, quoi. Donc avec des enfants un peu plus âgés, je me disais, bah oui, le second degré, ça passe, quoi. Voilà.
Donc il n'y a plus de conseillère pédagogique dans Picsou maintenant ?
Non, 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 c'est moi.
Donc pour préparer cette émission, j'ai quand même acheté et j'ai lu pas mal de Picsou, ce qui a été un plaisir, une petite Madeleine de Proust très agréable. Moi j'en avais un souvenir, on a l'impression que c'est un univers qui change très peu. Alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas suivi l'évolution, ou est-ce que c'est vrai ?
Alors ça change très peu et en même temps ça change tout le temps. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un univers qui semble assez clos, mais en fait c'est un univers qui a été constitué, disons, en bande dessinée, c'est vraiment avant-guerre. Mais avant-guerre, ça se passe en Californie, donc qui est déjà en fait une bulle à part aux États-Unis. Hein. Historiquement, c'est déjà le paradis un petit peu où tout le monde va pendant, par exemple, la crise. Tout le monde se dirige vers la Californie parce qu'il y a du travail, il y a du soleil, il y a de l'espérance, etc. Bon, la réalité est très différente. Hein. On connaît le Los Angeles noir et tout ça. Mais toujours est-il qu'en fait, ça représente une espèce d'idéalisation de la vie sociale, en fait, hein, quelque part, telle qu'elle est définie encore aujourd'hui. C'est-à-dire, bah, le rêve, c'est d'avoir un petit pavillon avec un petit jardin, un petit métier, tranquille. Voilà, pouvoir voir ses enfants évoluer comme ça.
Ça, c'est Donald.
Ça, c'est Donald, complètement, voilà. Et alors, au début, dans les années 30, par exemple, il habite dans une petite maison qui est censée être, en fait, à l'époque, c'est la banlieue de Donaldville, mais enfin, bon, on comprend que c'est la banlieue de Los Angeles, quoi, vu que Burbank, là où se trouve Disney, se trouve en banlieue de Los Angeles. Et en fait, ça s'appelle Grande Rue. Et en fait, petit à petit, il y a une urbanisation qui gagne. Il commence à avoir des voisins, donc le voisin Jones que tout le monde connaît, avec qui il a des grandes prises de bec. Et puis, la ville grandit comme ça. Et puis, en fait, l'urbanisation est celle aujourd'hui qu'on connaît, quoi. Et c'est ce qu'on voit encore dans nos banlieues à nous, que ce soit en France, aux États-Unis et dans tous les pays occidentaux.
Oui, donc les personnages ne changent pas physiquement, si on peut dire, mais en revanche, leur univers social...
Voilà.
Sociologique évolue avec les temps, en fait.
Tout à fait. Et d'autant plus que, évidemment, les auteurs changent. C'est-à-dire qu'il y en a qui partent à la retraite, d'autres qui les remplacent, qui sont plus jeunes, etc. Mais tout le monde se réfère, en fait, au créateur de tout l'univers des canards, qui est Karl Barks. Donc, alors, qui a un nom assez caractéristique parce qu'il a inventé Picsou, notamment. Et il y a 30 ans, quand j'ai commencé à Picsou, par exemple, on me demandait tiens, vous êtes rédacteur en chef de Picsou, tiens, mais c'est qui a inventé Picsou ? Je disais Karl Barks, et les gens me regardaient très étonnés, ils disaient non, c'est pas vrai. Et je voyais qu'en fait, ils croyaient que c'était Karl Marx. Donc, c'était assez amusant de savoir que, bon, effectivement, le gars qui avait inventé la figure du capitaliste canard, en fait, était confondu avec le gars qui avait écrit le capitaliste. Le capitaliste, ouais.
Alors, ce qui est intéressant dans Picsou Magazine et dans toutes les déclinaisons de Picsou, donc Fantomia, les trésors de Picsou, c'est qu'il y a une très grande attention qui est portée à l'histoire de cette bande dessinée.
Ouais.
Parce qu'il y a des rééditions de vieilles histoires, mais il y a aussi des éditions d'histoires moins vieilles, des années même 90 ou 2000-2010. Et à chaque fois, vous mettez l'année de création,
ouais,
le pays de création, et ensuite l'année de publication en France.
Voilà.
Ça, j'ai trouvé ça formidable.
Et les auteurs.
Et les auteurs, oui, on va en parler des auteurs, parce que c'est très important. Donc l'histoire est sans cesse reprise.
Ah oui, toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est un vrai bonheur en fait quand on travaille à Picsou Magazine. C'est-à-dire que la bande dessinée Disney, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond, mais en fait avec une cohérence incroyable, parce qu'effectivement tout le monde se réfère à Karl Barks. Et donc du coup, c'est comme le noyau central, ou on va dire la Bible en fait, quelque chose comme ça. Et donc du coup, il y a très peu de déviations par rapport à cet univers. C'est-à-dire que le caractère précis des personnages est toujours préservé. Et par exemple, Donald, lui, a toujours une personnalité très entière, très instinctive, on va dire, par rapport à un caractère. Mais en même temps, il représente socialement quelqu'un de vraiment niveau social moyen bas, quoi, on va dire. Donc il est tout le temps dans la galère, il cherche des boulots et tout ça. Et en fait, dernièrement, par exemple, on a programmé une bande dessinée qui est assez récente où il parle des impôts. Il y en a une autre où il parle du chômage. Et donc, on voit que, par exemple, toutes les situations sociales sont récupérées par les auteurs, qui eux-mêmes sont... c'est pas des millionnaires, les auteurs Disney, comme les auteurs de BD en général. Hein, c'est à part le haut du gratin, le gros du panier. Mais en fait, c'est des gens qui vivent socialement assez moyennement. Et du coup, ils traduisent dans leur bande dessinée aussi leur propre galère à eux, en fait, par la personnalité de Donald, quoi.
Il y a une histoire, je sais plus dans laquelle, parce qu'il y en a tellement... c'est sur, c'est du, il y a le Airbnb, il y a un,
ah oui, ouais ouais,
il y a toute une histoire avec un ils appellent ça Bed and Breakfast, mais ouais, on ouais, voit
ouais.
bien que
ouais, ouais. BnB,
BnB, on voit bien qu'il y a un message d'actualité quoi.
Ah oui, tout à fait, ouais ouais. Bah il y a même, enfin une histoire récente qu'on n'a pas passée encore, où Donald en fait devient cycliste Uber, livreur de restaurant quoi, voilà.
Donc, j'imagine que le public doit aimer ces vieilles histoires. C'est pas forcément quelque chose de gens qui ont notre âge à nous et qui sont nostalgiques. Le public jeune, comment il réagit quand vous publiez des histoires des années 60, des années 50 ?
Curieusement, en fait, je sais même pas, en fait, par exemple, sur un enfant qui a 8 ans, on va dire, donc au départ de la lecture, je sais même pas s'il se rend compte réellement que ces histoires sont aussi anciennes. Parce que, par exemple, les premières Carbars sont des années 40, donc elles ont quand même 70 ans. C'est un truc énorme quoi, c'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de BD des années 40 qu'on passerait aujourd'hui, des vieux Tarzan, des trucs comme ça qui ont, ou je sais pas, Prince Valiant par exemple, vous montrez ça à un enfant d'aujourd'hui, ça semble un peu désuet quoi. Ça a toujours une réalité, je pense que c'est la prise sur le réel social qui fait que ces BD ont toujours un poids évident. Mais moi, je suis passionné, par exemple, de cet univers. Quand je passe, par exemple, Le secret du vieux château, qui est une de mes bandes dessinées préférées, si ce n'est ma bande dessinée préférée, je la passe dans un numéro, j'ai tout de suite envie de la repasser. C'est comme une espèce de réflexe, quoi. Voilà, on n'arrive pas à échapper à ça.
Alors, on va parler des auteurs, parce que là aussi, on imagine... que c'est des auteurs qui travaillent au kilomètre, qui a pas vraiment d'auteur même, sauf qu'effectivement, il y a Karl Barks, il y a Don Rosa, qui sont des auteurs historiques, mais dans le dernier Picsou Magazine, vous mettez l'accent sur un auteur finlandais.
Kari Kornen.
Voilà, qui donc, ouais. Lui, dessine des bandes dessinées de maintenant, qui vit de ça maintenant. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que ça veut dire que les lecteurs savent très bien qui dessine les histoires.
Ah oui, oui. Bah, c'est-à-dire que moi, par exemple, à mon époque, quand je lisais le journal de Mickey, que j'avais 10 ans, tout était signé Walt Disney. Mais en fait, on s'apercevait en tant que lecteur que, évidemment, les différentes bandes dessinées de Picsou n'étaient pas dessinées par le même dessinateur. Ça nous donnait, finalement, quelque part, une éducation graphique, en fait, par l'œil, qui était assez importante, quoi. Et bon, c'est vrai qu'il y a toute une galerie de dessinateurs très différents. Après, il y a des très, très bons dessinateurs, il y en a des un petit peu moins bons, des moyens, et puis il y en a des médiocres. Et il y en a très peu des médiocres. Hein. Mais de temps en temps, par exemple, il y a des médiocres des années 80 qui deviennent intéressants aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, par leur décalage, en fait, quelque part.
Oui, parce que l'autre chose qu'on... Ça aussi, mais j'ai redécouvert tout ça, c'est qu'il y a des Picsou Magazine ou équivalents dans un tas de pays. C'est incroyable.
Ah oui, alors ça, c'est la grande particularité. C'est-à-dire que bon, le gros succès des comics Disney, on va dire, c'est dans les années 50, aux États-Unis. Et... tout ça date d'avant-guerre, en fait. C'est-à-dire que d'avant-guerre, en fait, c'était juste une licence avec les bandes dessinées de Mickey, les bandes dessinées de Donald, les premières. Et dans tous les pays, bah, c'était juste un accord de licence et on passait les strips quoi, dans les différents journaux. Le journal de Mickey, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec Disney. Et en fait, petit à petit, dans chaque pays, comment dire, il y a eu une éducation différente, propre à chaque pays, sur la bande dessinée Disney. Et y compris pendant la guerre, ils ont commencé à produire d'autres choses, parce que, enfin en tout cas en Europe, parce qu'il n'y avait plus accès à la bande dessinée américaine. Et quand, après-guerre, les journaux ont recommencé, bah, y a plein de dessinateurs de chaque pays qui se sont mis à dessiner. Et donc, par exemple, en Italie, il y a une catégorie de dessinateurs qui ont développé plein d'histoires de Disney avec une personnalité propre à leur pays. Donc, les caractères sont beaucoup plus exacerbés. C'est plus la commedia dell'arte, quoi, avec des archétypes encore plus extraordinaires, on va dire. Et en France, on a eu notre journal de Mickey, qu'on connaît bien, avec plein de héros différents et tout ça. On a aussi pas mal de créations, par exemple avec Claude Marin ou des gens comme ça. Et c'est vrai que ça a apporté en fait une particularité. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, en fait, les comic books dans les années 60 Disney se sont un peu effondrés avec l'arrivée des nouveaux super-héros Marvel, etc., qui ont pris vraiment le marché. Et donc, du coup, il n'y a plus de créations aux États-Unis. Il y a eu, par exemple, à la fin des années 60, il y a eu même un accord entre les États-Unis, enfin Disney aux États-Unis et le reste de l'Europe, pour créer des histoires dont le scénariste était américain et les dessinateurs européens. Et au bout d'un moment, aux États-Unis, les comics américains se sont arrêtés. Il y a eu quelques tentatives après, dans les années 80, par Gladstone, qui était un éditeur, mais alors là, un peu collectionneur, etc., et fan, et en fait, qui a ressorti des comic books, mais à destination des vieux fans. bon, qui vendait quelques milliers d'exemplaires, c'était assez faible en fait, etc. Mais, et du coup, en Europe, bah, pendant qu'aux États-Unis, il n'y avait plus rien, bah, tous les journaux ont continué à prospérer. Et dans la plupart des pays, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France, en Scandinavie, en Hollande, c'est toujours le numéro un pour enfants, quoi, en tout cas vendu en kiosque.
Oui, c'est quand on regarde les chiffres, Picsou Magazine et Déclinaison. C'est quasiment le seul, mais en tout cas la plus importante revue de bande dessinée en kiosque.
Ah bah oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, donc je crois dans l'ordre, je crois que c'est Trésor de Picsou, Super Picsou, Géant et Picsou Magazine. En fait, on est le trio de tête de vente de journaux pour enfants en kiosque. Voilà. Parce qu'en fait, nos concurrents, enfin, on va dire, moi j'appelle pas c'est des concurrents, c'est plus des complémentaires parce qu'on traite pas exactement de la même nature. Mais comment dire, ils vendent surtout en abonnement. Mmh. Que ce soit Bayard, que ce soit Fleurus, que ce soit Milan, enfin, tous ces éditeurs-là vendent surtout par abonnement. Et nous, on est en kiosque. Ce qui fait qu'on vend réellement aux lecteurs. Et donc, moi j'ai souvent cette surprise, par exemple, bon, bah, Trésor de Picsou, on vend à 125 000 en moyenne. Super Picsou Géant, ça doit être aux alentours de 100 000. Et
Trésor, Picsou Magazine, Trésor de Picsou, c'est des, ouais, c'est des vieilles séries.
Voilà, réexpliquées en fait. Ouais. Voilà. Alors là, maintenant, en fait, on est sur une nouvelle série, c'est-à-dire qu'on fait l'intégrale de Don Rosa. Et en fait, on apporte donc tout l'argumentaire historique et technique par rapport aux histoires et tout ça. Et en plus, on passe les histoires d'autres auteurs auxquels ils se référencent. Donc en fait, on a vraiment la globalité pour une histoire qui est assez intéressante. Et là, on est en prise vraiment, alors là, assez impeccable. C'est-à-dire qu'habituellement, on a un peu des courbes de vente qui sont en rapport avec les vacances, avec des pics pendant les vacances, et puis hop, ça redescend un peu après et tout ça. Là, sur les trésors, on est flat toute l'année, quoi.
Pour revenir au contenu de Picsou Magazine et d'autres magazines, est-ce qu'il y a des thèmes qu'on ne peut pas aborder dans Picsou Magazine, dans les histoires de Disney en tout cas?
Je vous dirais, ouais, mais en fait, c'est des thèmes pour adultes, quoi, comme le sexe, ou les choses, enfin la violence par exemple aussi, qui est tout à fait. Qui sort de
en même temps, il y a tout le temps des bagarres dans les Disney.
Ouais, mais c'est des bagarres, comment dire, subliminales, quoi.
Et le sexe aussi, j'ai découvert, je connaissais pas ce personnage de Goldie, qui est la espèce de fiancée platonique de Picsou.
Ouais, voilà. Alors bon, là c'est effectivement, alors là, là on attaque le cœur du sujet, c'est-à-dire que c'est vraiment le seul endroit où en fait il y aurait pu y avoir du sexe dans cet univers-là, quoi.
C'est pour ça que je vous pose la question, voilà. En fait.
C'est-à-dire que donc il y a un épisode de la jeunesse de Picsou où Picsou se trouve au Klondike. Donc c'est là où il va trouver sa première pépite d'oie, là, comme on dit. Et puis à un moment, bon bah il se la fait dérober par Goldie. Qui est, je sais pas si vous vous souvenez de ce film de Charlot qui se passe au Klondike aussi, La ruée vers l'or. Et en fait, c'est un peu le même scénario, en fait. C'est-à-dire que Charlot arrive dans un bar, là, Picsou arrive dans un bar avec une entraîneuse. C'est les bars du Grand Nord, c'est assez sauvage. Et puis, on lui donne un café empoisonné au somnifère. Et hop, il se réveille, on lui a piqué sa pépite d'or, effectivement. Bon, il va se venger et il entraîne Goldie avec lui dans la vallée de l'Agonie Blanche, là où il a son claim, où il fait ses prospections d'or, et puis il l'oblige à travailler pendant plus d'un mois pour rembourser sa pépite. Et là, en fait, hop, énorme ellipse sur deux cases, c'est-à-dire qu'hop, il s'enferme dans un chalet. On voit le soleil à gauche dans la première case, la case suivante, on voit le soleil à droite. Donc on imagine qu'il s'est passé toute la journée dans ce chalet. Que s'est-il passé? J'aime autant vous dire que pour moi, ils ont pris le thé très très simplement, mais pour les lecteurs, c'est oh là là. Et dans les blogs, alors je ne vous dis pas les commentaires, voilà. Mais il ne s'est rien passé, hein.
Non, il ne s'est rien passé. Oui, parce que quand on lit les histoires qui sont dans tous ces magazines, c'est des histoires, j'allais dire, très positives, qui sont très humanistes, très humaines. Il y a beaucoup de partage. C'est un univers très rassurant.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que toute la base revient à Karl Barks. Donc, j'en reviens toujours à lui. C'est-à-dire, c'est vraiment le créateur. C'est lui qui a. Bon, il a pas créé Donald, mais il a participé quand même à sa création. C'est-à-dire qu'il a, avant-guerre, il a réalisé. Enfin, il a travaillé sur tous les dessins animés de Donald. Ensuite, pendant la guerre, en fait, il a arrêté de travailler pendant les studios d'animation. Et puis, en fait, à la fin de la guerre, il a commencé à travailler pour le licencié Disney qui réalisait des comics. Donc, il s'est mis à la bande dessinée. ce monsieur, il est né en 1901 comme Walt Disney, donc c'était déjà un vieux monsieur, enfin un vieux monsieur, il avait déjà plus de 40 ans, donc pendant la guerre, il avait déjà toute une carrière avant lui, dans l'animation, et là, à partir de là, il va commencer à travailler sur Donald. Et en fait, ce monsieur est assez génial, parce que, bon, né en 1901, il était dans une famille qui a beaucoup voyagé, enfin, beaucoup déménagé, mais toujours sur la côte ouest des États-Unis, en Oregon, etc. Et en fait, donc, il était souvent isolé dans une ferme, et en fait, il était atteint d'une surdité, très jeune, et donc il n'allait pas à l'école, il faisait des cours par correspondance. Et donc ce gars-là, on voit qu'en fait c'est un gars qui a, dans sa jeunesse, qui a souvent rêvé, ou en tout cas qui a souvent été tout seul, donc il avait souvent observé la nature autour de lui et tout ça, et dans les cases, on retrouve tout cet univers. Et c'est un gars qui est effectivement très humaniste en fait en soi. Donc c'est pas un univers qui est forcément, été commandité comme ça par Walt Disney, c'est vraiment l'auteur qui est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'histoires par exemple qui commencent, où on voit par exemple les personnages en arrière-plan, nos personnages principaux, Donald, etc., et en premier plan on voit des animaux qui sont en train de s'égayer, puis alors des animaux dessinés dans une beauté absolument magnifique, quoi. Voilà, c'est génial.
Oui, parce que les enjeux des histoires, c'est assez simple, c'est la jalousie, l'ambition, l'envie... C'est un peu les péchés capitaux, c'est ça qui est,
ouais, c'est ça,
qui
ouais.
est génial. Quoi.
Ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, donc, effectivement, si on prend chaque caractère, ils ont chacun. Ils sont très archétypales, en fait. C'est-à-dire que, bon, bah, y a Gontran qui a tellement de chance que c'en est très énervant. D'ailleurs, ça énerve énormément Donald, qui justement n'en a jamais. Il y a Picsou qui est richissime d'emblée, donc qui lui, etc. Mais en fait, qui ne dépense rien, c'est-à-dire qu'il accumule, il accumule. Donc on peut même dire qu'il n'est pas vraiment un financier comme aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'il garde tout, il thésaurise et tout ça. Et en fait, tout ce qui le motive, c'est finalement tout ce qu'il n'a pas. Donc on se demande jusqu'où ça va aller, quoi.
D'ailleurs, quand je disais Picsou, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais fasciné par la piscine d'argent.
Ouais,
parce que je me demandais, j'étais petit, hein, comment on pouvait nager.
Oui, bah, c'est impossible. Il y avait une histoire en fait, où effectivement, Picsou piège les raptous en faisant croire qu'ils vont pouvoir plonger dans la piscine. Et en fait, ils s'assomment. Il n'y a que Picsou qui arrive à nager dans l'eau. Quoi. C'est... Enfin, dans l'or.
Alors, qui sont les lecteurs de Picsou Magazine?
Alors les lecteurs, ça va, ça c'est beaucoup, ça a beaucoup changé en fait. C'est-à-dire que si on reprend, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années, on avait une formule avec un gadget. Et le gadget, en fait, on était vraiment sur une forme de gadget très farce et attrape, gluant, enfin très déconnant, mais en fait qui donnait une thématique au journal qu'on utilisait à l'intérieur du journal. Et puis petit à petit, pour diverses raisons, etc. En fait, je m'en suis plus occupé. Et en fait, donc le gadget a commencé à décliner. Et c'est vrai aussi qu'à l'époque, enfin, les gamins aussi ont changé. C'est-à-dire que, comment dire, il y a effectivement 20 ans, on mettait un coussin péteur. Un enfant de 10 ans rigolait avec. Aujourd'hui, on file un coussin péteur à un gamin de 10 ans. C'est la honte, quoi. Jamais il l'amènera à l'école, quoi, par exemple. Ça, c'est évident. Et donc, ça, cette mentalité a quand même changé. Et du coup, moi, ça faisait longtemps que je voulais qu'on change de formule, qu'on abandonne le gadget, d'autant qu'aujourd'hui, le plastique est foutu à la poubelle en 5 minutes, tout le monde en a un peu ras-le-bol. Et en fait, donc, fin 2018, on m'a autorisé à lancer cette formule-là. Donc, on a abandonné le gadget et on a doublé la pagination. On est passé de 150 pages à 300 pages. Et on a quand même gardé des cadeaux. C'est-à-dire que maintenant, c'est des cadeaux au papier avec un poster, des cartes à collectionner, des stickers. Un peu à l'ancienne, quoi, en fait, on va dire. Et visiblement, ça a énormément plu. Et à l'intérieur, on a changé complètement la formule. C'est-à-dire que maintenant, avant, en fait, comment dire, le rédactionnel, en fait, fragmentait un petit peu la bande dessinée. Donc, ça faisait comme une espèce de millefeuille, quoi. Hop, un peu de BD, un peu de rédactionnel, un peu de BD. Voilà. Et là, maintenant, en fait, on a segmenté complètement tout ça. On a 48 pages de magazine au départ. Et ensuite, 250 pages de bande dessinée qui sont, elles fragmentées en volume, on va dire. Et donc, on va présenter une thématique, un personnage, des auteurs, une BD italienne oubliée, des choses. Voilà.
Oui, il y a même un dossier Love, j'ai vu dans le dernier.
Ouais, voilà. Oh, du coup, on est revenu au cœur du métier, c'est-à-dire que le métier, nous, c'est journaliste, donc c'est apporter de l'information, certes, mais aussi apporter de la surprise, en fait. Et du coup, ça change tout le temps. C'est-à-dire que là, on a fait un spécial Love, parce que il y avait la Saint-Valentin, enfin, ça, c'est un gros prétexte. Mais en fait, le personnage de Goldie, dont vous parliez tout à l'heure, c'est un personnage qui fascine totalement les lecteurs. Et tant et si bien que, par exemple, si vous allez à Japan Expo ou Comic-Con, les seuls personnages Disney, enfin de nos univers que vous voyez, c'est des gens qui vont se déguiser cosplay en Goldie et Picsou. Et ça, on en voit de plus en plus souvent, donc ça, c'est assez amusant, quoi.
On a presque fini, on pourrait passer vraiment des heures et des heures à parler de Picsou. Moi, j'ai deux questions pour finir. La première, c'est quel est votre personnage préféré, si vous en avez un?
Ah oui, moi, c'est Donald. Moi, c'est Donald depuis toujours. C'est-à-dire que je trouve qu'il me ressemble trop. Moi, je suis très à fleur de peau. C'est-à-dire, je suis très comme ça, bon, très émotionnel, très etc. Je me ressens vraiment comme lui, quoi.
Moi, j'aimais beaucoup les Raptous.
Ah ouais, bah oui, mais ça, vous êtes un vilain, vous.
Et vraiment, pour finir cette interview, est-ce que vous mangez du canard?
Jamais, moi, je suis végétarien. Désolé.
C'est une bonne conclusion. Julie, je vous repasse la parole.
Oui, Stéphane, donc merci beaucoup, Pascal Pierret, professeur Pierret donc.
Merci.
Je peux vous appeler comme ça maintenant?
Oh, j'ai eu super les sonnons. Hein.
Alors, on peut retrouver donc tous les magazines, revues de bande dessinée dont on a parlé en kiosque, donc Trésor de Picsou, Super Picsou Géant, Chronique de Fantomialde.
Ça, c'est génial.
Picsou en or ou Mickey Mystère également. Voilà, donc quatre titres qu'on retrouve de manière hebdomadaire en kiosque ou comment?
Oh non,
non, mensuel, enfin...
Imaginez un hebdomadaire de 300 pages. Je serai enfermé jour et nuit dans mon bureau.
Donc c'est
tous les deux mois ou tous les trois mois.
Tous les deux mois ou tous les trois mois, le temps de bien les lire et de
ouais.
Et d'avoir envie d'en racheter d'autres.
Voilà.
Oui, parce qu'il y a,
ils sont souvent stockés dans les toilettes.
Allez,
oui, tout à fait.
Je reprends
puis
la
depuis
parole.
Des générations en plus.
Ouais, je reprends la parole, mais il y a beaucoup, beaucoup à lire. C'est, on en a ouais. Vraiment pour son argent, on peut y aller.
Voilà, donc c'était tout sur l'univers de Picsou. Merci Stéphane.
Bah merci Julie.
À la prochaine.
À la prochaine. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh.
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.